Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 192. Aujourd'hui, on va parler de nuances et de complexité et est-ce que ça a vraiment sa place en marketing?
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Déjà l'épisode 192, si vous n'êtes pas au courant, on est dans la finalisation, dans le fond, du podcast L'Ambition au féminin. À 200 épisodes, on arrête le podcast, on va transmuter vers un nouveau lieu où on va parler encore plus spécifiquement de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça veut dire d'exister et prospérer sur le web en 2025, en 2026, en 2030. Vers où est-ce qu'on s'en va avec les développements technologiques et identitaires que ça implique d'avoir tellement de présence ou d'espace qu'on investit dans des espaces virtuels comme le web, y compris sous la forme de professionnelle, mais aussi personnelle, sociale, individuelle, intellectuelle. Et bon, d'ici là quand même, j'avais encore des messages à transmettre ici dans l'ambition au féminin. Et aujourd'hui, ben, un de ces messages, justement, c'est autour de la nuance et de la complexité. Parce que bon, moi, ça fait 9 ans là, que je suis à la tête de Aime ta marque, que j'ai une pratique continue de création de contenu, que j'ai focalisé sur un travail féministe qui est à la limite intellectuelle, qui a beaucoup de réflexions profondes au cœur de ce que j'enseigne, des modalités de mon type de coaching, de mon type d'accompagnement. Et j'accompagne aussi beaucoup de personnes qui sont parfois à l'avance de leur temps, à l'avance de leur industrie, ou qui portent en elles un degré de complexité qui est nécessaire pour faire avancer les choses. Donc, c'est pas des sujets faciles qu'elle traite, c'est pas des sujets qu'on peut simplement mettre dans une petite phrase de 5 mots sur LinkedIn. Et souvent, ben, ça va créer de la paralysie ou de la tension de se dire « Ok, mais est-ce que les gens vont vraiment comprendre? Est-ce que je peux vraiment avoir une entreprise avec une thématique qui a besoin d'être traité de façon aussi complexe et nuancée si je veux vraiment représenter ma vision autour de ça. » Puis bon, hein, j'ai des clientes qui sont dans le milieu climatique, d'autres qui travaillent dans le milieu de l'ingénierie, d'autres qui travaillent dans le milieu de la performance, d'autres qui travaillent dans le milieu de la périnatalité, d'autres qui travaillent dans le milieu de la santé, dans le milieu du droit, dans le milieu de la tech. Et ben, avec les avancées, avec les développements qu'il y a dans ces industries-là, ben, souvent justement, si on veut rentrer dans un modèle d'innovation, que ce soit de l'innovation technologique ou de l'innovation sociale, surtout de l'innovation sociale, je vais dire, hein, parce que c'est surtout là qu'on intervient avec les types de leaders avec qui je travaille, on doit quand même réaliser que pas tout le monde est rendu là. Hein, qu'il y a un certain seuil, une grande partie en fait de la population et même de personnes qui sont formées dans les domaines qui ont besoin d'être éduquées à travers des nouveaux paradigmes ou qui ont besoin de voir des choses différemment ou qui ont besoin de voir des choses avec une lunette plus large. Ce qui fait que souvent, ça va être difficile de communiquer clairement autour de ça ou du moins de communiquer clairement comme le veut le marketing. Donc, c'est sûr que, bon, pour mettre en contexte, hein, aujourd'hui, on vit dans un contexte de surcharge informationnelle. Et à cela s'ajoute, puis on va en parler un petit peu, un analphabétisme fonctionnel. Donc, juste pour commencer avec le contexte de surcharge informationnelle, hein, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, mais aujourd'hui, bon, une personne est exposée à environ 1200 messages publicitaires par jour, contre 200 dans les années 80. Puis bon, un message publicitaire, on n'a pas besoin de le lire et de s'arrêter, puis de vraiment l'analyser pour que notre cerveau capte l'information, que ce soit une information visuelle ou une information auditive ou textuelle, et stocke ou du moins essaye de saisir la donnée pour pouvoir la filtrer, pour pouvoir dire, OK, est-ce que ceci est pertinent, est-ce que ceci n'est pas pertinent, et ensuite de passer à la prochaine, au prochain stimuli. Donc, cette explosion de messages, surtout des messages publicitaires, hein, surtout quand on navigue sur le web, ça, je pense que c'est le... C'est une moyenne sur toutes les plateformes confondues, mais si on prend la moyenne sur le web uniquement, j'ai pas les chiffres là maintenant, mais c'est énorme, hein? On a qu'à naviguer LinkedIn pendant 10 minutes ou être sur l'Internet pendant 10 minutes, puis je sais pas combien de publicités on va voir, mais c'est constant, hein? Puis souvent ça va être des carousels de publicité, ça va nous popper dans la face, ça va sortir de lieux qu'on s'y attend pas nécessairement. Et même si, encore une fois, on ne prend pas le temps de vraiment lire et comprendre qu'est-ce que c'est, notre cerveau, notre regard va capter ces données-là, ces informations-là, et justement essayer genre de faire le tri. Donc, cette explosion contribue à la surcharge informationnelle et ça se mêle avec une fatigue cognitive qui se symptomatise notamment par le temps d'attention moyen qui a chuté. Hein. Souvent, on va utiliser cet exemple que notre temps d'attention est inférieur à celui d'un poisson rouge, mythe ou réalité. Bon, c'est un peu vrai, un peu faux. N'empêche, notre temps d'attention, avec l'utilisation des écrans, avec l'utilisation, avec des journées où il y a énormément d'informations qui est transmise, va réduire drastiquement notre temps d'attention, notre capacité d'attention. C'est aussi pourquoi, bon, beaucoup de gens disent, c'est bon de retourner en nature de temps en temps pour être capable de faire baisser le bruit, pour rentrer dans un état un peu plus périphérique de conscience, bref. Et à ça, ben naturellement, il y a l'analphabétisme fonctionnel. Puis moi, quand j'étais... à l'université, je travaillais dans un organisme d'alphabétisation et je travaillais aussi dans un journal qui s'appelait Le Voir. Et je me rappelle parce qu'une fois, il y avait une qui avait été lancée. Ça fait plus que 10 ans, là. Peut-être, je pense qu'on était en 2012 à ce moment-là, qui disait que près de 47% de la population québécoise était analphabète fonctionnelle. Aujourd'hui, j'ai recherché les statistiques actuelles. On dit 52% des Québécois âgés de 16 à 65 ans sont en situation d'analphabétisme fonctionnel selon les données de l'OCDE. Et ça, c'est pour 2023-2024. Et une entreprise sur quatre au Québec rapporte des difficultés de compréhension chez ses employés, ce qui impacte la qualité du travail. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, puis c'est pas parce que ces personnes sont des immigrants ou, ou qui sont pas nécessairement éduquées. Hein. Ici, au Québec, on a l'éducation gratuite pour tous, même qu'on a des frais de scolarité les plus bas au pays, et parmi les plus bas au pays. Et malgré ça, beaucoup de difficultés à saisir l'information textuelle et à la filtrer de façon appropriée, à comprendre ce qui est communiqué et la transformer en action appropriée. Donc ça, naturellement, c'est problématique. Mais ça se reflète aussi dans le type de langage qu'on s'habitue aussi à prendre quand on veut rejoindre une large partie de la population. Donc la conséquence, ça va être d'utiliser un langage simple, le niveau de lecture recommandé, hein, parce qu'il y a des tests qui suggèrent, par exemple, c'est quoi le registre langagier avec lequel on voudrait parler pour atteindre une majorité de la population, et ce niveau-là est d'environ 10-12 ans. Donc, à peu près cinquième année du primaire, hein, cinquième, sixième année du primaire. Et ça, c'est pour assurer la compréhension du public majoritaire. Donc, d'un côté, on a la fatigue cognitive, on a le stress d'être constamment stimulé par des messages, on a la difficulté à trier l'information, la baisse du temps d'attention moyen, la baisse de la confiance en nous à prendre des décisions après avoir analysé un message. Et ce qu'on voit, ben, c'est que ça se manifeste aussi dans notre façon de devoir communiquer au niveau du marketing. Donc ça va affecter la façon dont on écrit. On va viser la simplicité avant tout. On va créer des textes aérés, pas des blocs de texte denses, donc beaucoup de sauts de ligne. On va parler de vocabulaire accessible, éviter les jargons. Tout ça, c'est des bonnes pratiques de rédaction web qui éliminent ou qui réduisent la friction à la compréhension. Puis, c'est des choses qu'on encourage, puis que j'encourage mes clients aussi à garder en tête quand elles écrivent, que ce soit des articles de blog ou des publications pour leurs réseaux sociaux, parce que, à quelque part, ben, on veut pas ajouter ou surcharger davantage nos clients en leur créant des messages confus ou opaques qui sont difficiles à décrypter. Donc, ce qui nous mène à la question centrale de ce podcast, qui est est-ce que d'abord la nuance et la complexité ont encore une place dans un marketing qui est dominé par ce besoin de simplification extrême? Puis c'est une bonne question parce qu'à quelque part, puis si vous me suivez, hein, on parle beaucoup de marketing éthique, de éviter la manipulation par les messages, d'être capable d'ouvrir des conversations qui vont non seulement nous permettre de, développer des communautés, trouver une clientèle, offrir nos services et tout ça, mais aussi changer des mentalités parce que, bon, comme je l'ai dit, hein, beaucoup de mes clients, c'est pas simplement des gens qui veulent un gagne-pain. Elles avaient déjà un job bien payé ou des choses comme ça, mais veulent aussi laisser une trace, laisser une marque, laisser un impact qui fait du sens et donc qui permet de faire évoluer les industries, faire évoluer les pensées, faire évoluer les personnes. Donc, pour être capable de communiquer à ces personnes-là, tu sais, oui, d'un côté, ben, il y a une simplification, mais est-ce que le marketing éthique ne demande pas justement qu'on réintègre une certaine nuance pour éviter de rentrer dans du marketing manipulatif? Puis ça, c'est un intéressant paradoxe. Parce que, comme on l'a dit, on simplifie pour ne pas fatiguer. Donc, notre raison de simplifier, à quelque part, c'est un geste de service, c'est un geste d'empathie. Hein? On essaye de garantir une lisibilité, on met du care dans nos messages. On veut faciliter la prise de décision, réduire la charge mentale qui vient avec ces décisions-là. Donc tout ça, ça émane d'une bonne volonté d'aider nos clients dans cette surcharge-là. Et l'UX, donc l'expérience utilisateur, accompagne cette démarche avec des structurations claires, des phrases courtes, un vocabulaire simple, hein, des designs qui sont faciles à décoder. Mais là, on arrive avec des limites, c'est que trop de simplification peut causer de la méfiance parce que les consommateurs vont percevoir un manque d'authenticité ou de profondeur et aussi le risque de perdre en différenciation parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut simplifier. Si on simplifie le marketing à sa plus simple expression, puis que je dis « Ah bon, ben moi j'aide à créer des messages qui vendent », ben, à un moment donné, il y a une limite à ce que je peux ajouter comme différenciation. Et par cela, ben je perds à la fois de la crédibilité, de l'engagement à long terme, je perds ce qui fait de moi une marketeuse unique, ou du moins quelqu'un qui a une approche différenciante à cette expertise-là. Donc, moi, ma posture, mon opinion, c'est que Premièrement, la complexité, je pense que ça a une mauvaise réputation parce qu'on pense que ce qui est complexe, c'est mauvais, c'est difficile, c'est dense, c'est opaque. Alors que complexité en soi, ça ne veut pas dire confusion. Hein? Un organisme humain, c'est un organisme complexe, mais ça ne veut pas dire que c'est confus. Chaque organe a son rôle, chaque système, système digestif, système respiratoire, a sa fonction d'une façon quand même assez structurée, ça a une logique interne. T'sais, si on prend un moment pour apprendre là-dessus, c'est facile relativement à comprendre comment les éléments travaillent ensemble. Oui, on peut pousser ça à une expertise extrême, hein? Devenir un biologiste, devenir un docteur spécialiste et tout ça, et être un spécialiste du corps humain, mais le corps humain, lui, dans sa complexité, ne veut pas dire qu'il est trop difficile à être compris. Ça veut juste dire que c'est quelque chose qui implique de nombreux systèmes, de nombreux composantes qui crée ensuite un tout, qui crée ensuite des effets, qui crée un organisme, hein? C'est pas mal ça qu'on dit. Donc, complexité ne veut pas dire confusion, puis ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut garder en tête, parce que on peut avoir un sujet complexe, on peut avoir des opinions nuancées, et quand même les communiquer clairement. Et quand même les communiquer d'une façon à ce que ce soit facile à suivre, que ce soit facile à assimiler. Bien entendu, il y a une certaine dose d'effort mental, d'effort intellectuel qui doit être mis. Il faut vouloir comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit absolument utiliser le jargon de médecine pour expliquer comment le système respiratoire fonctionne. D'autant plus que être capable de parler, de vulgariser, d'utiliser différents registres pour parler d'un sujet complexe, c'est un signe de maîtrise de notre sujet. Donc, si on est capable de parler de l'influence, là, je prends mon cas à moi, des structures d'oppression et du féminisme dans notre façon de faire du marketing, par exemple, qui sont deux sujets qui, en soi, peuvent être complexes, bien que je pense que le marketing, c'est pas mal moins complexe que ce qu'on veut croire, là. C'est quand même assez très straight to the point. Ben là, à ce moment-là, ça va être à moi à m'assurer que la clarté dans ma compréhension du sujet puisse ensuite être transmise à travers un message limpide, à travers des mots qui disent ce qu'ils ont à dire, des phrases faciles à assimiler, mais qui n'ont pas nécessairement besoin de faire tomber un niveau de complexité. D'autant plus que la nuance et souvent la profondeur, la complexité, répond à la diversité des attentes et des besoins des clients. C'est pas tout le monde qui désire ne pas forcer leur cerveau. Hein, c'est pas tout le monde qui veut toujours le chemin le plus simple, c'est pas tout le monde qui veut la nourriture la plus facile et la plus rapide à faire, c'est pas toujours un avantage concurrentiel de faire les choses vite et en surface. Hein, puis là, je pense à l'exemple McDonald's, c'est pas tout le monde qui veut manger du McDonald's, même s'il y a des avantages à manger du McDonald's, ça va être prêt en 5 minutes, tu sais exactement ce que ça va goûter, ta viande va jamais être sous-cuite, bref, hein, c'est pas cher, etc., etc. Mais c'est pas tout le monde qui désire ces caractéristiques-là dans leur nourriture. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir un repas 5 étoiles dans lequel ils vont avoir passé 2 heures et demie, ou tu sais, ils veulent avoir une expérience unique, ils veulent avoir une vue sur la tour Eiffel, whatever ce que c'est, ok? Donc, de penser que tout le monde veut absolument le contenu, la version, la chose la plus facile à digérer, c'est de se distancer d'une partie de la population qui serait absolument enchantée d'entrer un peu plus en profondeur dans une certaine thématique, dans un certain sujet. Puis ça, c'est naturellement une question de positionnement, puis de bien comprendre qu'est-ce que mon public recherche et qu'est-ce que je peux donner à mon public qui fait sens pour moi. Donc, encore une fois, tu sais, on peut amener de la nuance sans nécessairement rendre ça confus. Quand c'est bien présenté, la communication n'a pas besoin d'être, de créer de la friction. Par exemple, on peut dire, je vais écrire une idée par pièce de contenu, je vais améliorer le UX de mon site, je vais faire moins, je vais pas nécessairement utiliser le jargon universitaire, mais je vais utiliser un jargon juste, mais plus familier. Hein, un langage juste, mais plus familier. Bref, ça ne veut pas dire que la nuance doit se mettre ou la clarté doit se mettre dans le chemin de la complexité. Ensuite, la nuance, la complexité, la profondeur, ça renforce la confiance et la fidélisation parce que, à quelque part, quand on est capable d'user de nuances, c'est qu'on est capable de manipuler justement cette nuance et qu'elle ne nous fait pas peur. Si je fais juste un tableau en jaune, rouge, bleu et que je ne suis pas capable de bien doser le jaune et le bleu pour faire du vert, je vais avoir un tableau très cru, très, disons, dans ma face, hein, avec des couleurs très vives, mais pas nécessairement très travaillées. Tandis que quand on est capable de travailler avec la nuance, ben là, ça peut créer une certaine confiance parce que ça veut dire qu'on maîtrise encore une fois notre sujet au point où on n'est pas déstabilisé par des opinions qui pourraient avoir l'air divergentes ou des perspectives qui pourraient contredire certaines choses parce qu'on est capable de travailler avec. Donc ça, c'est excellent pour fidéliser, pour être transparent aussi avec notre audience, pour présenter honnêtement c'est quoi les limites de certains modèles, c'est quoi les avantages, c'est quoi les désavantages. Donc on lutte comme ça contre à la fois les surpromesses, hein, parce qu'on sait que dans la nuance, on est capable de dire, ben voici ce qui est possible, voici ce qui n'est pas possible selon ma connaissance quand même élargie du domaine, mais aussi on est capable de dire, ben j'ai rencontré aussi plusieurs autres réflexions sur le sujet qui me permettent d'avoir une vision encore plus précise et plus claire de ce avec quoi on travaille. Donc, on l'a dit aussi, ça a un effet différenciateur dans un marché saturé et ultra compétitif. La qualité du discours va être augmentée, va être améliorée par l'argument, par la nuance, et ça permet de se démarquer. Ça va peut-être pas être accessible ou désirable pour tous, mais c'est ça, à quelque part, du positionnement. C'est d'être capable de se différencier, de dire « mon travail s'adresse à tel type de personne et s'adresse pas à tel type de personne. » Donc, ce type de ségrégation est nécessaire quand on fait du marketing et la nuance, la complexité nous permettent de faire cette ségrégation-là aussi, d'une certaine façon. Format adapté, bon, une chose qu'on peut faire aussi, c'est de choisir sur quelle plateforme, sous quel format on va amener nos discours les plus complexes. Tu sais, on peut décider que, bon, sur Instagram, dans les Reels et tout ça, on garde ça à un niveau quand même assez accessible, tandis que quand on plonge un peu plus dans les blogs ou dans les infolettres ou dans un, tu sais, dans les programmes, dans les cours, dans les accompagnements que vous avez, ben là, on sait qu'on va pas nécessairement juste rester en surface. Hein. Fait que ça peut être une façon aussi d'intégrer la nuance et la complexité dans son entreprise, c'est d'avoir différents niveaux. Ceci dit, moi, mon expérience, c'est que je préfère parler avec le même niveau dans mes plateformes publiques que dans mes plateformes plus privées ou avec mes clients, parce qu'à quelque part, c'est un peu la signature de ma marque, d'être capable de rentrer dans ces lieux de profondeur et de complexité. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose qui prouve que j'ai pas peur d'aller au fond des choses. Et pour mon type de clientèle, c'est important parce que pour ceux qui ont peur d'aller au fond des choses, ben, ça pourrait vouloir dire qu'il y a des sujets qui sont qu'on ne peut pas nécessairement adresser et qu'il va falloir garder à l'extérieur de l'accompagnement ou des choses comme ça. Puis enfin, il y a des personnalisations qui sont possibles. On peut simplifier, encore une fois, pour le grand public. Je donne un autre exemple. Si, par exemple, j'ai ma chronique dans les affaires et j'ai mon infolettre et j'ai mes programmes et j'ai mes autres plateformes, c'est sûr que le choix des sujets et des thématiques que je mets dans les affaires, qui est quand même un journal plus spécialisé sur le milieu professionnel, le milieu des affaires, quand même, il y a une population plus large et moins ciblée que dans mes propres espaces à moi. Donc voilà, tu sais, on peut avoir des espaces où on simplifie et d'autres où on va nuancer pour des arguments, pour des segments plus experts ou plus engagés. Tandis que, bon, c'est sûr que quand je parle aussi dans les affaires, tu sais, je m'assure d'argumenter puis d'avoir des faits, parce que je pense que quand on parle au grand public, il faut faire aussi un grand effort de fact-checking, donc vérification de nos faits, vérification de ce qu'on avance, parce que, encore une fois, à cause de ce que j'ai dit à propos de l'analphabétisme fonctionnel, des choses comme ça, on veut s'assurer que on transmet la bonne information. Hein, c'est une responsabilité qu'on a à quelque part de faire cette vérification, d'avoir cette responsabilité-là, surtout quand on communique pour le grand public. Puis je le répète parce que je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est important de le répéter. Parler sur différents niveaux de langage, c'est un signe de maîtrise du sujet. Si on est juste capable de parler en jargon technique, c'est pas, et que il y avait une super bonne série, je sais pas si ça, ils les ont encore, c'est Wired Magazine, et ils demandaient à des scientifiques, tu sais, ça peut être un scientifique sur la mécanique quantique, il dit « Peux-tu expliquer c'est quoi la mécanique quantique à un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans, un ado de 13 ans, un ado de 17 ans, un étudiant en physique de 21 ans et un doctorant en physique quantique. » Puis d'être capable de passer de ces différents registres. Puis là, tu as les différents types d'explications. Puis c'est intéressant parce que c'est de voir comment ces sujets complexes peuvent être traités selon différents niveaux de langage. Fait que je vous encourage, si vous voulez trouver ça, je vais essayer de trouver un lien puis de le mettre dans les liens de l'épisode parce que c'est quand même assez intéressant. Alors, voilà. Donc, est-ce que la nuance et la complexité ont de la place dans notre marketing? Je pense que oui. Ça va dépendre de notre façon de l'intégrer. Hein. On n'est pas obligé non plus de faire des traités de 20 pages pour notre publication LinkedIn. C'est ça qui est intéressant avec le marketing, c'est que ça devient des petites pièces de contenu qui, mises ensemble, représentent une vision de notre expertise, de notre maîtrise du sujet. Mais plus on maîtrise notre sujet, plus on va être capable, après ça, d'ajouter justement cette nuance-là sans alourdir la surcharge informationnelle, sans alourdir le texte, sans alourdir les concepts qu'on veut communiquer, et plus on pratique, dans le fond, ce marketing-là, ce type de marketing qui est axé, qui est basé dans le leadership de pensée, plus on devient meilleur, justement, à passer dans les différents registres de langage. Fait que pour moi, c'est du win-win-win d'ajouter de la nuance et de la complexité dans notre marketing. Encore faut-il avoir certains codes pour s'assurer qu'on respecte notre audience en tout temps, qu'on les prend pas pour des cons, mais aussi qu'on n'ajoute pas du chaos sémantique parce qu'on n'a pas fait le travail de traiter l'information de notre côté avant de vouloir la transmettre. Puis ça reste une responsabilité des créateurs de contenu d'être capables de structurer et de transmettre une information qui va être facilement digestible et qui va nous permettre après ça de prendre action, que ce soit, bon, de faire partie d'une communauté, d'un groupe, de signer une pétition ou peu importe ce que c'est. Alors voilà, est-ce que j'ai d'autres notes ici? Ouais, dans un environnement saturé d'informations fast-food, la nuance, la complexité devient un levier précieux pour gagner en confiance et en engagement, puis je pense qu'on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir écouté, puis comme d'habitude, je suis toujours ouverte à entendre vos réflexions et vos suivis suite à ce petit espace qu'on a pris ensemble aujourd'hui. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcasts, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.